France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, si on voyageait ce matin en Italie du Nord, dans la région des Apennins, Crémone, 17e siècle, c'est là que nous emmène Cyril Gelli dans son nouveau roman La forêt au violon. Ça vient de paraître chez Albin Michel. Bonjour Cyril Gelli.
Bonjour.
C'est votre 7e roman, si je compte bien. On vous connaît pour vos pièces de théâtre, signé Dumas, Diplomatie avec Nils Sarostrup et André Dussolier, dont vous avez signé l'adaptation ensuite pour le cinéma, qui vous a valu un César en 2015, film de Volker Schlöndorff. Le cinéma pour lequel vous avez également écrit le scénario de Chocolat, de Roche Dizem, avec Omar Sy. Le film raconte l'histoire de ce clown, premier artiste noir de la scène française. D'abord, avant de parler du grand personnage qui hante ce livre, sortir un livre début novembre, c'est une folie ?
Oh non, c'est pas une folie, au contraire, je pense qu'on arrive après les prix, après tous ceux qui cherchent effectivement à sortir au mois d'août ou au mois de septembre, c'est plus tranquille. Maintenant, c'est vrai que la sortie de ce livre, elle est quand même assez particulière, puisque le livre est sorti le 28 octobre, et le 28 octobre, ça a été le début du confinement. Donc, mais je pense qu'il faut faire contre parfois mauvaise fortune, bon cœur, et se dire que tout le monde est dans ce cas-là. Et le plus important, c'est que le livre existe, et qu'il soit lu, et qu'il soit partagé, aimé.
Pas de signature en librairie, mais la possibilité de retirer ses livres en librairie, justement.
Absolument.
Après les avoir commandés, c'est essentiel pour vous, écrivain.
Pour moi, c'est essentiel, mais pensons d'abord aux libraires et aux librairies, pour qui c'est beaucoup plus essentiel que pour moi. Et aujourd'hui, on peut aller faire des click and collect, et j'espère que la semaine prochaine, dans deux semaines peut-être, qu'ils pourront réouvrir, et qu'on pourra de nouveau avoir accès aux librairies, à la culture, dans le sens général.
À suivre. Et puis évidemment, il y a beaucoup de territoires, des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de librairie près de chez eux, pas un kilomètre de chez eux, mais il y a toujours la commande sur Internet. Après, c'est une question de choix, de choisir le site sur lequel on commande. On commande La forêt au violon, c'est votre dernier roman. Il vient de paraître chez Albin Michel. Et dans cette forêt, on trouve le bois dont les violons sont faits, comme celui d'Ivry Gitlis. Il joue ici Paganini. Ivry Gitlis sur son Stradivarius et ce Caprice de Paganini, opus 1, numéro 13. La forêt au violon, c'est le livre de Cyril Gelli, notre invité ce matin. Alors on va raconter un petit peu progressivement ce livre, mais on ne va pas tout dire tout de suite, d'ailleurs on ne va pas tout dire du tout. D'où d'abord est née cette envie de plonger dans le monde de la musique, et plus précisément de la lutherie du XVIIe siècle?
En fait, le livre raconte un peu l'histoire d'un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Antonio, qui habite un village, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au nord de l'Italie, qui s'appelle Cremone. On est dans les années 1670-1680, et Antonio est luthier. Il désire créer, fabriquer des violons. Et vous l'avez dit aussi, pour fabriquer un violon, il faut deux bois essentiellement. D'abord, le premier, c'est de l'érable, pour la partie inférieure, qui est un bois assez courant à l'époque, et le second, qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus rare, qui pousse en altitude, qui est un résineux, qui est de l'épicéa. Et Antonio entreprend un premier voyage vers les montagnes roses, qui ne s'appellent pas encore les Dolomites, où il a la chance de rencontrer un vieux monsieur, un vieux paysan, qui l'emmène dans la forêt, et avec lequel il va sélectionner 5 magnifiques épicéas pour tous ses violons futurs. Problème ? Antonio n'a pas un sou en poche, n'a pas d'argent, et le vieux paysan lui propose un pacte. Pour chaque épicéa coupé, Antonio lui fabriquera un violon. Et l'idée m'est venue un jour où je regardais les vieux métiers. Et je suis tombé sur un métier dont j'avais jamais entendu parler, qui était bois chantant, bois charmant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Le nom m'a tout de suite séduit. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que c'était les personnes qui partaient dans les forêts pour trouver du bois pour les luthiers. Bois chantant, c'est joli. Et je me suis dit, mais il y a peut-être une histoire à trouver autour de ce vieux métier. Et puis de fil en aiguille, avec des ricochets, le livre est né tel que vous l'avez découvert.
Vous êtes beaucoup documenté, j'imagine, pour construire cette histoire.
Énormément, parce que même si vous désirez être vraisemblable, le plus proche de la vérité, vous êtes en fait obligé, que ce soit pour Chocolat, que ce soit pour Diplomatie, ou même Signé Dumas, dont vous avez parlé, qui était sur Alexandre Dumas père, vous êtes obligé d'énormément faire de recherches pour, une fois que vous commencez à écrire, pratiquement toutes les oublier. Parce qu'on n'est pas historien. Et moi, je désire pas faire un cours d'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de partir en voyage, de permettre au lecteur, au spectateur, de s'envoler pendant 1 heure, 2 heures, d'oublier un petit peu ce qui peut se passer autour de lui, qui est pas forcément agréable. Et donc, si jamais je suis historien, je vais m'accrocher à mes découvertes et à ce que j'ai recherché. Or là, il faut très bien connaître ce milieu de la lutherie, ce milieu de l'Italie du XVIIe siècle, et au moment d'écrire, essayer d'oublier un petit peu tout ça pour que ça reste fictionnel et romanesque.
C'est curieux, Cyril Gelly, à chaque fois, vous avez cité donc le clown Chocolat, il y a également votre précédent roman, Le Prix, avec ce chimiste allemand Otto Hahn qui va recevoir le Nobel, et avec les règlements de compte de sa collaboratrice. Il y a dans Diplomatie, la pièce de théâtre et ensuite le film, le général von Joltitz, c'est ce diplomate suédois qui va convaincre le général de ne pas détruire Paris. Il y a à chaque fois des personnages réels auxquels vous ajoutez de la fiction, et c'est le cas ici également, puisqu'on ne l'a pas encore cité, mais le Antonio dont il est question ressemble quand même, et d'ailleurs il est nommé 2 fois dans le livre, c'est Antonio Stradivari. Pourquoi vous n'avez pas confiance en la fiction pure?
C'est de la fiction pure, parce que en fait, si vous regardez bien tous les titres que vous venez de citer, ce sont toujours des blancs de l'histoire. Stradivarius, par exemple, ou Stradivari, on connaît très mal ses premières années. C'est un blanc de l'histoire. Et quand on a une page blanche comme celle-ci, on peut tout écrire. Et ça, c'est formidable. Parce que parfois, le passé nous offre un regard sur le présent, nous permet de mieux nous connaître, de mieux aller vers l'avenir. Et moi, c'est ce que j'aime. En écrivant, je vais toujours chercher dans le passé, ou en tout cas très souvent, parce que ça m'inspire et ça m'offre toutes les portes pour aujourd'hui et demain.
Vous êtes allé là-bas, dans ces montagnes roses?
Alors, je ne suis pas allé, mais il y a une... Moi, j'adore marcher. Il y a une randonnée que j'adorerais faire et dont on parle souvent à la maison. On part de Munich et on descend par les Dolomites pour arriver jusqu'à Venise. C'est 2 semaines de marche et il paraît que c'est juste merveilleux. On devait le faire l'été dernier et l'été dernier, nous n'avons pas pu.
Et il marche beaucoup, cet Antonio, dans la forêt au violon, après le Stradivarius d'Ivry Gitlis. Voici celui de David Grimal. Thank you.
Dès le lendemain, il se mit au travail dans une sorte d'état second, proche du somnambulisme. Il découpa les éclisses, monta les tables, colla le manche. Les ouïes furent redressées, affinées, l'âme fixée. Le vernis à base de sang d'arac, finement déposé. Mi-septembre, après 31 jours de vertige absolu, le troisième violon, à l'image de la jeune fille, fut achevé. Antonio tourna autour une bonne heure ou deux. Il se demandait quelle sonorité il pouvait avoir, s'il ne s'était pas trompé. Enfin, il le prit dans ses bras, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un enfant sauvage, l'accorda et fit rouler l'archer sur les cordes. Alors, comme il l'avait expliqué une fois à Giuseppe, il entendit la voix de Dieu, un son pur, exceptionnel.
Un extrait de La Forêt au violon, lu en direct sur France Musique par l'auteur Cyril Gély, notre invité. Alors, on l'a dit, c'est Stradivari qui racontait, qui fictionnalisait, le mot est assez laid, mais avec cette grande page blanche, quelle a été la jeunesse et la formation d'Antonio Stradivari, qui va choisir de se faire appeler ensuite, de se latiniser Stradivarius. Et au cœur de ce livre, de ce roman, il y a une quête d'absolu, une quête de violon parfait, c'est une des questions qui revient en permanence.
Oui, en fait, il y a même deux quêtes. La première, c'est qui est-il réellement ? Pourquoi est-il luthier ? Pourquoi fabrique-t-il des violons ? Et la seconde, effectivement, nous sommes encore une fois vers 1670, 1680, et le violon n'a pas encore une forme, un poids, une taille définie. Stradivari a comme maître Niccolo Amati, qui fabrique des violons plutôt petits, un peu larges, et il trouve que le son n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort. Et c'est une époque, il faut bien se rendre compte, où on joue à la fois dans des petites salles, comme celles que nous avons autour de nous, pour 4-5 spectateurs, mais aussi, c'est le début des grands opéras, le début des grandes salles, avec 300, 400, 500 personnes autour de soi, où le violon commence à prendre une place importante.
Et le violoniste devient soliste.
Exactement. Marco Uccellini, Arcangelo Corelli, voilà, c'est l'époque des premiers grands violonistes. Paganini va arriver un petit peu plus tard. Et Stradivari cherche un violon qui peut être à la fois intime, mélodieux et puissant. Intensité et sonorité, voilà ce qu'il cherche. Et donc, il va passer ses premières années à rechercher le violon parfait, et c'est ce que raconte aussi ce livre, à travers cette quête, à travers aussi la rencontre, bien entendu, avec une jeune femme, sourde, muette, qui n'entend pas les notes de musique, mais avec laquelle il va nouer des liens particulièrement forts.
Il va s'inspirer, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais il va s'inspirer d'elle pour son violon parfait.
Exactement.
Vous l'évoquiez dans cette lecture, la jeune fille. Vous en avez rencontré, j'imagine, des luthiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Vous leur avez demandé pourquoi vous êtes luthier, puisque c'est la question qui revient dans tout ce livre, Cyril Gély.
Alors écoutez, j'en ai rencontré surtout par Internet, parce que c'est un moyen tellement facile aujourd'hui de rentrer en contact avec telle ou telle personne. Et ceux qui m'ont répondu, ceux qui ont eu la gentillesse de me répondre, en fait, m'ont tous dit qu'il y avait, un plaisir de travailler le bois, un plaisir de la forme, un plaisir du travail bien fait. Et ça, ça m'a énormément plu, parce que je trouve que lorsque vous étudiez un violon, moi qui ne connaissais pas grand-chose au violon avant d'écrire le livre, en fait, c'est très proche de l'homme ou de la femme. Il y a des ouïes, il y a un cœur, il y a une âme, et tout est relié à ce que l'on est soi-même. Par exemple, il n'y a que du bois, les cordes sont des intestins de mouton, l'archer est fait avec des crins de cheval.
Donc c'est très organique.
C'est incroyable, complètement incroyable. Et à partir de ces 71 pièces différentes, à la fin, il n'en reste plus qu'une. Et quand on l'entend, ça, c'est effectivement un son absolument incroyable.
Stradivarius, vous avez voulu garder des choses pour justement l'imaginaire et la fiction. Vous êtes aussi beaucoup documenté sur lui, vraisemblablement. Oui. Tout ce qu'on sait de lui, et ensuite il y a cette page blanche que vous avez évoquée tout à l'heure.
Oui, il faut très très bien connaître son personnage, même si après vous l'inventez, même si après vous lui faites dire des paroles qu'il n'a pas dites, même si après vous l'emmenez dans les montagnes roses où il est peut-être allé. L'important, en fait, encore une fois, c'est de bien savoir de quoi vous parlez pour pouvoir être le plus libre possible. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est exactement ça. Mieux vous connaissez votre sujet, plus vous êtes libre par rapport à celui-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, quel que soit, vous parliez de, encore une fois, de Signé Dumas, le prix, etc., on est toujours une sorte de petite souris qui assiste à un moment de l'histoire. Et la naissance du violon tel qu'on le connaît aujourd'hui est un moment absolument incroyable de l'histoire. Et moi, j'ai voulu le raconter.
Vous avez écouté la musique, la musique des Stradivarius,
oui,
en écrivant?
Oui, et je me suis beaucoup aussi renseigné sur le fameux secret de Stradivarius. Tout le monde est à la recherche du secret de Stradivarius. Pourquoi les Stradivarius sonnent-ils différemment des autres? Et c'est très intéressant, parce qu'on a cherché dans le vernis, on s'est aperçu que ce n'était pas ça, a priori, puisque les dernières études ont montré qu'il y avait deux couches sur pratiquement tous les violons. Une première d'huile, un peu comme de l'huile de peinture, et puis la seconde, de l'huile mélangée avec de la résine de pin. Et en fait, on s'aperçoit que Stradivarius a accordé beaucoup plus d'importance, on va dire, au visuel qu'à l'acoustique, quant au vernis. Et puis, bien sûr, il y a eu mille idées, dont le petit âge glaciaire, hein, à l'époque où il crée ses violons. D'ailleurs, l'autre grand luthier, c'est Guarnari del Gesù, c'est exactement la même époque. Mais moi, je pense que ce qui fait vraiment le secret de Stradivarius, c'est son génie.
Quoi de mieux qu'un Stradivarius, Cyril Gelly? 4 Stradivarius. Dvorak, un extrait du quatuor l'américain avec le Tokyo String Quartet qui ici jouait et a joué pendant une quinzaine d'années sur quatre Stradivarius. Antonio Stradivari, sa jeunesse inventée ou ses débuts, c'est dans La forêt au violon chez Albin Michel, le livre de notre invité ce matin, Cyril Gelly, avec une écriture très cinématographique. Est-ce que cette vie pourrait être, ou cette vie inventée pourrait être portée au cinéma?
Ce serait une belle idée. Ce serait une belle idée. C'est toujours un peu le... à la fois un rêve et puis une limite, parce que quand on écrit, on se projette déjà dans un certain cinéma, puisqu'on se fait son cinéma à soi. Et après, quand on voit son écriture soit portée sur scène, soit sur grand écran, on est à la fois surpris de se dire que c'est né de son petit cerveau, et puis c'est jamais exactement ce qu'on avait imaginé non plus. Et c'est vrai que pour écrire ce livre, s'il y a une chose que j'ai voulu faire, alors c'était très prétentieux, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'était d'essayer d'écrire comme s'il s'agissait en fait d'une partition de musique. D'essayer d'y donner un mouvement, d'essayer d'y donner un tempo, d'un rythme. C'est un peu l'idée, hein, puisqu'Antonio, on voit l'évolution du personnage sur une dizaine d'années, et en fait, il va faire 5 voyages, parmi où il va revenir à chaque fois tous les 2 ans.
Des choses qui reviennent, hein, des rites presque.
Et l'idée, c'était comme une sorte de refrain, en fait, dans une musique. Comme une sorte de mélodie un peu lancinante, comme le Boléro de Ravel, par exemple. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, c'était en tout cas le désir du départ.
Stradivari, un génie, disiez-vous tout à l'heure. Vous êtes intéressé aussi, pour finir, à la légende après sa mort et à ses violons qui portent des noms. Mmh. Ce nom même de Stradivarius qui est devenu un nom commun, ça a été peut-être même le déclencheur du livre. Enfin, pourquoi cette légende?
Pourquoi cette légende? Moi, je sais en tout cas que lorsque j'ai écrit ce livre, j'adorais écouter. J'aime bien écouter de la musique quand j'écris. Et là, j'écoutais le thème de la liste de Schindler, qui est un thème absolument incroyablement beau et qui est joué par Isaac Perlman sur un Stradivarius, justement. Le soil. Et c'est vrai que la musique, quand vous l'entendez avant d'écrire, vous permet de vous ramener instantanément dans l'histoire, de vous concentrer tout de suite. Et c'est une sorte de... ça vous porte. Et c'était absolument extraordinaire d'écrire avec cette musique.
La forêt au violon, chez Albin Michel, livre signé Cyril Gelly. Merci beaucoup. Vous parliez de ce Soil d'Isaac Perlman. Mais moi, je vous propose un autre grand violon. Il s'appelle La Belle au bois dormant, puisqu'il a été trouvé dans un placard, je crois. Et c'est maintenant Isabelle Faust qui le joue ici dans Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup.
Merci bien. Thank you.
Le final de ce concerto pour violon en mi majeur de Jean-Sébastien Bach, Isabelle Faust, l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par Bernhard Forck et Isabelle Faust sur son Stradivarius, La Belle au bois dormant, La Forêt au violon, le livre de Cyril Gelly, vient de paraître chez Albin Michel.
À réécouter sur francemusique.fr.